Vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié?
Vous souhaitez suivre une formation technique, digitale ou de gestion?
Faites-vous accompagner financièrement pour gagner en compétences et en compétitivité.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Merci d'être avec nous, le week-end des experts, les animaux. Deuxième partie, bon dimanche. Et sachez que jusqu'à 8h, Laetitia Barlerin est à mes côtés. Ensuite, ce sera l'automobile et Jean-Luc Moreau. Avec Jean-Luc Moreau, nous évoquerons tout à l'heure le salon de Genève. Grand rendez-vous annuel dédié à l'automobile. Quelles sont les tendances du salon de Genève de cette année? Eh bien, on verra ça tout à l'heure avec Jean-Luc et toute une sélection de journalistes automobiles triés sur le volet comme à chaque fois. Et puis, bien sûr, Jean-Luc répondra à toutes vos questions auto. Mais d'ici là, Laetitia, dans quelques instants, nous aurons Dave avec nous au téléphone. Dave qui vient de sortir un ouvrage, Ma chienne de vie, un hommage à sa chienne.
Sa chienne, ben oui. Voilà. C'est un peu le journal intime de sa chienne qui s'appelle Chance.
Et qui a eu la chance, visiblement.
Hein. Beaucoup de chance.
Voilà, il nous racontera l'histoire de sa chienne tout à l'heure. On essaiera aussi, pourquoi pas, de transformer notre jardin en ferme. Ça peut être pas mal.
Ça peut être, à commencer par des poules, pourquoi pas.
Voilà, hein, pourquoi pas, avec des poules. Mais pour débuter, on va fêter un anniversaire, Laetitia.
Et oui, c'est l'année dernière, en 2015, que la SPA a fêté 170 ans d'existence, 170 ans au service des animaux, vous vous rendez compte?
Oui, oui, oui.
C'est la première association de protection animale en France et nous avons avec nous Natacha Harry qui est présidente, bien sûr, de la SPA.
Bonjour Natacha.
Bonjour Laetitia, bonjour François, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous, pardon. Alors, raconte-nous comment est née la SPA.
Ah, la SPA est née d'un constat malheureux, c'est que à l'époque de sa création, hein, c'était à la fin du 19e siècle, eh bien les cochers maltraitaient les chevaux en plein Paris et certaines personnes se sont vraiment ont combattu cette forme de maltraitance sur la voie publique et ont créé la SPA. C'est le docteur Étienne Parizet qui est à l'initiative de cette création.
Qui était un médecin.
Tout à fait. Et par la suite, il a été soutenu par des intellectuels qui ont estimé que cette maltraitance n'était absolument plus supportable. Donc voilà comment est née la SPA à l'origine pour sauver les chevaux des cochers parisiens.
Alors le premier refuge de la SPA a ouvert à Gennevilliers, près de Paris. En 1905, qu'est-ce qui a motivé son ouverture? Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà des abandons?
Alors, des abandons, pas sous la forme qu'on les connaît aujourd'hui, parce que à l'époque, les animaux de compagnie tels qu'on les connaît, nous, n'existaient pas réellement. Mais on sait que dans les fermes, dans les foyers, parce que Paris était moins étendu qu'aujourd'hui, donc il y avait vraiment des fermes à proximité du centre de la capitale, les animaux étaient laissés un peu en divagation, manger ce qu'ils pouvaient, comme ils pouvaient, et très souvent étaient maltraités. Donc ce refuge de Gennevilliers a été créé effectivement pour recueillir toutes sortes d'animaux qui souffraient, qui étaient en état de maltraitance.
Et on les stérilisait déjà ?
À l'époque, je ne pense pas qu'on les stérilisait, c'est venu plus tard. C'est-à-dire que la SPA, face à ce constat des abandons massifs, a estimé qu'il était nécessaire de stériliser les animaux pour éviter qu'ils se reproduisent de manière incontrôlée. Et donc, les animaux qui se reproduisent, fatalement, à un moment donné, ce sont des animaux qui risquent d'être abandonnés. Donc, c'est ce qui a vraiment motivé cette philosophie de notre maison qui consiste à stériliser tous les animaux qui passent chez nous.
Alors, justement, aujourd'hui, la SPA, c'est 60 refuges, 600 salariés, 3000 bénévoles, énormément d'adhérents, bien sûr. Donne-nous d'autres chiffres. Combien d'animaux sont recueillis, sont soignés dans vos structures?
Alors, chaque année, enfin, en tout cas en 2015, pour vous donner un chiffre très précis, on a fait adopter dans nos structures près de 39 000 animaux, ce qui est considérable, c'est en très forte progression et oui. On ne peut que s'en réjouir. Et vraiment un grand merci aux Français qui ont compris que venir adopter à la SPA, c'était une démarche extrêmement positive, non seulement pour l'animal qu'ils adoptent, mais finalement aussi pour les animaux en règle générale, parce que c'est une démarche d'engagement pour la cause animale. Et vraiment aujourd'hui, les gens reculent de moins en moins à l'idée de venir adopter un chien, un chat, même à une autre espèce dans nos refuges SPA. Donc ça, c'est une évolution notable. Pour vous donner d'autres chiffres, environ chaque année, ce sont 100 000 animaux qui sont abandonnés en France. La SPA en recueille près de la moitié.
C'est énorme.
Heureusement, un certain nombre d'entre eux retrouvent leurs propriétaires, parce que quand on parle d'animaux abandonnés, certains le sont sur la voie publique, mais se sont simplement sauvés, égarés, et on arrive à retrouver leurs propriétaires. Ce qui explique la différence entre le chiffre que je vous donnais sur les adoptions et le chiffre des abandons et des animaux recueillis dans nos refuges. Voilà, donc c'est vraiment un combat quotidien pour faire en sorte, d'une part, qu'il y ait de moins en moins d'animaux abandonnés. Mais ça, je dois quand même vous dire que on est un peu en échec à ce niveau-là, parce que ces chiffres ne diminuent pas d'année en année.
Mais pourquoi ? Parce que franchement, les Français sont de plus en plus sensibles quand même à la cause animale, mieux informés aussi peut-être.
Oui, je pense que les gens sont de mieux en mieux informés, mais on a encore un véritable travail pédagogique à faire pour que les gens se rendent compte de la responsabilité que représente le fait de prendre un animal. Chez nous, on parle d'adoption responsable. Ça veut tout dire, c'est vraiment un engagement sur toute la vie de l'animal. Et ce message-là, il doit vraiment passer encore plus pour faire en sorte que ce ne soit pas simplement un coup de cœur sur le moment, un acte un peu impulsif, qui n'arrive pas dans nos adoptions, parce que notre personnel est formé pour faire en sorte d'accueillir et d'accompagner les gens au moment de l'adoption. Mais parfois, en animalerie, les familles peuvent craquer pour des jeunes chiots ou des petits chatons et puis finalement se rendre compte que c'est bien compliqué de vivre avec un animal à la maison si c'est pas une véritable volonté. D'où les abandons fréquents. Et d'accord. Puis, chose aussi importante peut-être à préciser, c'est la nécessité de renforcer l'éducation, notamment des chiens, parce qu'un animal, et vous le savez très bien Laetitia, un chien convenablement éduqué, c'est un chien qui va mieux vivre au sein de sa famille, et donc on va limiter le risque d'abandon.
Oui. Alors, pour les animaux qui ne trouvent pas d'adoptants dans les refuges, il y a toujours des chiens ou des chats qui sont trop vieux, trop malades ou trop... Voilà. Et eux, ils sont dans les refuges depuis des années, ils ne trouvent pas d'adoptants. Et alors là, vous avez mis en place, la SPA a mis en place le contrat famille d'accueil. Moi, je trouve ça une excellente idée.
Écoutez, le constat est celui que vous venez de faire. C'est-à-dire que certains de nos animaux, malgré tous nos efforts, ont passé plusieurs années en refuge sans qu'on ait réussi à leur trouver une famille. C'est absolument affreux d'imaginer qu'un animal puisse vivre des années en refuge, même si je sais que nos équipes font leur maximum pour leur donner tout le confort de vie nécessaire, mais ça ne remplacera jamais la vie dans une famille. Donc ce contrat famille d'accueil est simple. Il est réservé aux chiens et aux chats qui sont chez nous depuis plusieurs années, donc qui sont en échec d'adoption. La SPA reste propriétaire de ces animaux, mais les place de manière définitive dans des familles qui sont volontaires. C'est-à-dire qu'une famille qui rentre dans ce programme fait le choix de prendre chez elle un chien ou un chat et elle doit le garder jusqu'à sa mort. Mais la SPA subvient aux besoins, que ce soit l'alimentation ou les frais vétérinaires, donc la famille n'est pas du tout impactée par l'aspect financier. Parfois, quand on a des animaux qui ont une pathologie un peu lourde, c'est un frein à l'adoption parce que sinon, on se rend compte que ça va leur coûter cher. Or là, nous assumons vraiment les soins et les frais vétérinaires de ces animaux, mais on leur offre une vie
de famille
différente,
bien
meilleure. Alors, aujourd'hui, on en a plus de 300 qui sont comme ça dans le programme des familles d'accueil.
Ce qui est un vrai succès, parce que c'est un contrat qui vient...
En un an et demi, voilà, ça a été lancé en juin 2014. Et en un an et demi, nous avons plus de 300 animaux placés de cette manière. Et sachez qu'on est toujours à la recherche de familles bénévoles. Donc si vous êtes partant pour rentrer dans ce programme des familles d'accueil, allez sur notre site, le site de l'ASPA, et à ce moment-là, moment-là, vous verrez, il y a un petit onglet programme des familles d'accueil, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour faire partie de ce programme.
Alors la SPA se cantonne pas au refuge, hein. Ses missions sont plus larges concernant la protection animale. D'ailleurs, la SPA s'est constituée partie civile dans l'affaire de l'abattoir de Vigan. Un mot sur cette affaire ?
Écoutez, cette affaire, c'est vraiment une triste affaire, mais qui est révélatrice de l'état des abattoirs français. Les abattoirs français ne respectent pas la réglementation en vigueur, et notamment la réglementation en matière de protection animale. Envoyer un animal à l'abattoir, c'est déjà un acte assez compliqué pour les protecteurs des animaux que nous sommes. Mais le minimum que l'on demande, c'est que les animaux soient envoyés à l'abattoir dans des conditions qui soient dignes, et qu'ils soient abattus dans des conditions qui soient dignes. C'est-à-dire étourdi, avant d'arriver à l'abattoir, qu'on ne rajoute pas de stress supplémentaire, qu'il soit dans un environnement le plus calme possible et qu'il n'y ait pas de souffrance qui vienne se surajouter à l'acte d'abattage qui est déjà lui-même extrêmement difficile.
Laetitia, on va revenir dans un instant, on va changer de sujet. Imaginez une maison avec un grand jardin et au bout de ce jardin, une ferme.
Pourquoi pas ?
Ça serait pas mal, ça ? On en parle avec notre invité dans un instant, Hervé Husson, à l'occasion du Salon de l'Agriculture qui ferme ses portes aujourd'hui.
Et oui, peut-être que vous avez envie, du coup, d'avoir, alors je dis pas une vache dans votre jardin.
Non, ça c'est compliqué.
Mais un petit, je sais pas, des poules, des oies, des canards, pourquoi pas des moutons, des chèvres, je sais pas.
Des lapins aussi ?
Et des lapins ?
Oui, allez, on en parle dans un instant, on va vous expliquer comment ça marche tout ça. 3216, animaux@rmc.fr. A tout de suite.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Allez, avant de retrouver la météo et les infos de 7h30 sur RMC, eh bien nous allons parler de ferme, Laetitia, à l'occasion.
Mais de ferme familiale.
Bien sûr, de ferme familiale. Imaginez, voilà, vous avez une maison. Pourquoi ne pas créer une petite ferme dans votre jardin ? On en parle à l'occasion évidemment du Salon de l'Agriculture dont c'est le dernier jour aujourd'hui.
Et oui, faut se presser si vous voulez voir les vaches et tous les animaux. Ah oui. C'est aujourd'hui ou jamais, ou l'année prochaine. Et nous sommes avec Hubert Husson qui est auteur...
Hervé Husson. Husson.
Pourquoi Hubert ? N'importe
c'est
quoi.
C'est pas mal aussi.
Auteur de Petits élevages au jardin aux éditions Ulmer. C'est parce que c'est Ulmer, c'est peut-être pour ça. Hervé, bonjour.
Oui, bonjour Laetitia.
Bienvenue.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que on peut avoir envie, justement, en visitant un salon comme le Salon d'Agriculture, d'avoir son propre petit élevage familial, sa propre ferme. Est-ce une tendance aujourd'hui ?
Il semble que oui, surtout en zone rurale, on voit beaucoup. Il y a depuis quelques années les opérations poules qui ont eu lieu dans les mairies, qui ont créé quelques vocations, on va dire.
Et oui, parce que les poules diminuent les déchets alimentaires.
Entre autres, c'est une de leurs fonctions.
Malgré tout, il faut faire attention aux modes quand même, parce que ça peut être un danger, non ?
Il faut pas prendre n'importe quelle espèce dans n'importe quelle condition. Que conseillez-vous à un débutant qui a un petit jardin ? Est-ce des poules ?
Eh bien, la poule est probablement l'animal le plus simple, le plus accessible et qui présente l'avantage de rentrer toute seule dans son poulailler le soir, ce que ne vont pas faire des canards, des moutons ou d'autres types d'animaux.
Et la poule est bien élevée.
La poule est bien élevée en ce sens, voilà, et donc ça en fait un animal particulièrement pratique à gérer, puisque on peut minimiser ses clôtures ou ses protections à partir du moment où les poules sont bien enfermées pour la nuit.
D'où cet engouement en fait pour les poulaillers, les mini poulaillers. Et parfois, je suis allé dans une grande surface de jardinage et il y a des mini poulaillers maintenant comme qui sont prêts à l'emploi, j'allais dire. Il manque plus que la poule qu'on met dedans.
Il manque plus que la poule qu'on met dedans. Et puis, vous avez aussi, bon, on peut compter, moi j'ai répertorié au moins 400 races de poules, dont des tas de petites poules maintenant.
Hein. Des naines.
Et les plus petites font presque moins de 400 grammes. Hein, donc on est sur des poules qui sont presque plus petites qu'un pigeon.
Alors c'est quoi les conditions pour avoir quelques poules ?
Oui. Et puis déjà, combien faut-il en avoir au minimum ?
Alors le minimum, c'est bien d'en avoir deux. Ce sont des animaux grégaires, donc qui ont besoin au moins d'un congénère. Alors ce n'est pas obligé d'avoir un couple. Hein. On peut avoir deux femelles, bien sûr, deux poules, hein, parce qu'on connaît les problèmes qu'on peut avoir avec un coq, bien sûr.
C'est sûr. Sauf quand la poule se transforme en coq, comme on a vu avec une précédente auditrice. Et au niveau surface, qu'est-ce qu'il faut ?
Alors, au niveau surface, le plus vous leur donnez de surface, mieux c'est, bien sûr. Hein. Mais si vous ne voulez pas subir de dégradation, il faut compter un minimum d'à peu près 50 mètres carrés par poule.
D'accord.
À 50 mètres carrés c'est par quand même... poule.
Ah oui. C'est pas le petit jardin de banlieue, quoi.
Oui. Alors, si on donnait avant des chiffres qui étaient à peu près de 20 mètres carrés par poule, mais si on observe des poulaillers dont les surfaces correspondent au nombre de poules, on voit bien que l'herbe ne reste pas toute l'année. Or, l'herbe, c'est un élément très important de l'alimentation dont la poule doit disposer tout au long de l'année.
Ah oui, d'accord. Alors, on dit des poules, des canards, des oies. C'est possible d'avoir les trois ensemble ? Est-ce qu'elles cohabitent bien ?
Alors, on va dire, c'est délicat, hein. Ça peut très bien parfaitement marcher, tout comme ça peut très bien être une catastrophe. Ça va dépendre de d'où viennent vos animaux, de la façon dont ils ont été élevés. En général, on arrive quand même à faire cohabiter tout le monde. C'est surtout une question d'espace, hein. Dans ce cas-là, il faut que chacun puisse avoir son petit territoire à soi, de façon à éviter justement les conflits territoriaux et hiérarchique.
Alors, moi, ce que j'ai vu quand même, c'est qu'on vend de plus en plus d'oies pour les particuliers, ce qui est quand même étonnant. Alors, ce qui est bien,
parce que l'oie, c'est assez costaud quand même.
C'est costaud, et puis c'est pas forcément un animal auquel on pense pour mettre dans son jardin.
Je sais pas si c'est vraiment gentil en plus une oie.
Ce qu'il y a de bien, c'est que c'est anti-cambriolage quand même, les oies.
Alors, effectivement, les faits, moi, je le connais, les faits, même, je n'ai qu'un couple d'oies qui est relativement gentil, mais c'est systématique. Dès qu'un inconnu approche, les oies montent à l'assaut, toutes ailes ouvertes en criant à tout va. Le facteur, la première fois, était très, très, très déstabilisé.
Il n'a pas été pincé au mollet ?
Alors non, parce que elles n'ont pas accès, mais sinon c'est un risque, hein. Oui, bien sûr. Et en sachant que je l'ai remarqué à mes dépens, l'oie a une pression dans le bec qui est vraiment très très impressionnante. Hein.
Oui, alors vous le dites pour les étrangers, mais peut-être pour les membres de la famille, non ? Ça s'apprivoise une oie ?
Bien sûr.
Alors ça s'apprivoise si vous les avez petites. Oui, hein, vous pouvez les imprégner, ce sont des animaux qui s'imprègnent très bien. Malgré tout, le jar, puisque c'est souvent le jar qui est plus agressif, le jar a un instinct de défense de sa compagne, hein, puisque à l'origine ce sont des animaux monogames, a un instinct de défense de sa compagne qui est très très fort. Donc là, par exemple, quand l'oie est en train de pondre, le jar monte la garde dans les 5 mètres qu'il y a autour du pondoir et personne n'entre dans cette superficie.
Même quelqu'un même un membre de la famille.
Oui, même moi, à ce moment-là, je n'entre pas, je risque de me faire pincer.
Parce que voilà, si vous rentrez, voilà, il vous attaque, en fait.
Ah oui, ouais. Et dessus, je suis un intrus qui pénètre dans la distance dans laquelle...
Enfin, d'accord, oui, bien sûr, vous êtes un potentiel danger.
C'est la même chose pour les cygnes, vous en parlez aussi dans votre livre, parce que de plus en plus de personnes qui ont un lac dans leur
pavoué... Oui, nous avons un lac, je veux quelques cygnes.
Ou un bassin, un petit bassin, veulent des cygnes. Mais alors, il faut faire attention, parce que ce ne sont pas des animaux qui sont, très affectueux.
On n'est plus dans le cadre d'animaux domestiques, en fait. Hein. On est sur des animaux sauvages qui sont maintenus en captivité. Donc, ce sont des animaux qui ont gardé une vie, bien sûr, plus proche de la vie sauvage et qui ont des instincts beaucoup plus prononcés de ce côté-là. Donc, effectivement, un cygne, je ne tenterai même pas de l'approcher lorsque la femelle est en train de couver, par exemple. Je les laisse tranquilles. C'est comme ça que, de toute façon, qu'ils feront le mieux leur boulot.
Hervé, comme les poules, pour par exemple les oies, il en faut deux.
Alors, le cygne est un animal qui est vraiment fait pour vivre en couple, comme les canards sauvages.
Hein,
donc, il faut, dans ce cas-là, effectivement, autant on peut acheter des poules, on ne peut acheter que des femelles. Ouais. C'est aussi un peu vrai avec des pintades. Autant pour certains animaux, donc les cygnes et les canards sauvages, on achète toujours par couple.
Alors, parlons de mammifères maintenant. Certains pensent prendre un mouton ou une chèvre pour entretenir le gazon.
Alors moi ce que je vous propose, Hervé et Laetitia, c'est d'en parler dans un instant. Là, tiens, regardez la pendule. Il est 7h30. Puisque nous avons fait les volatiles, après on va s'intéresser aux mammifères. Eh oui, mais attendez, mais tout est calculé dans ce rendez-vous animaux, les amis. Tout est au cordeau, comme on dit. Alors à tout de suite, après la météo et les infos, c'est RMC.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Le retour du week-end des experts, les animaux. Laetitia, attention, tout à l'heure, une star sera avec nos téléphones.
Dave.
Et oui. Le grand chanteur. Dave qui, évidemment, est animateur télé aussi. On le retrouve du côté de chez Dave. Il a été aussi jury de la France à l'incroyable talent il y a quelques années, vous vous en souvenez?
Et oui, et c'est aussi grâce à lui que nous avons eu un gagnant chien cette année. Charlie.
Est-ce qu'il était, il était jury?
Juliette, oui, parce que c'est lui qui l'a sauvé tout début. Lors de la première sélection, c'est Dave qui était qui l'a choisi, et puis on sait que Juliette et son chien Charlie ont été jusqu'en finale pour gagner cette édition.
Tout ça pour vous dire que Dave adore les chiens, il adore tellement les chiens qu'il en a écrit un livre en compagnie de son compagnon Patrick Loiseau, Ma chienne de vie, paru aux éditions Robert Laffont, et il nous en parlera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on est dans la ferme avec Hervé Husson qui est toujours avec nous au téléphone, auteur de petits élevages au jardin, paru aux éditions Ulmer. Je vous rappelle que c'est le dernier jour du salon de l'agriculture, donc c'est le moment où j'admets d'y aller. Et on essaie de se fabriquer une petite ferme à la maison si on a un jardin.
Voilà, et je sais que certaines personnes pensent prendre un mouton ou une chèvre pour tondre le gazon. Alors dites-moi Hervé, est-ce que c'est une bonne idée?
Alors, je dirais que pour le mouton, c'est une bonne idée si on sait, si on a quelques connaissances en ce domaine. Pour la chèvre, je dirais que c'est une mauvaise idée puisque la chèvre n'est pas une tondeuse, contrairement au mouton.
Elle mange tout, la chèvre.
La chèvre est beaucoup plus...
Même les fleurs, tout.
Oui, le mouton aussi. Il faudra quand même avec des moutons, mettre votre potager et vos parcs de fleurs à l'abri. Et il faudra aussi protéger vos écorces d'arbres. Mais le mouton passe sa journée à manger de l'herbe, ce qui n'est pas le cas de la chèvre. L'herbe ne sera qu'une partie de son régime alimentaire.
Bon, Hervé, quel est le mammifère le plus sympa qu'on pourra avoir dans une ferme?
Dans une ferme familiale.
Familiale, bien sûr.
Et c'est très difficile
à dire.
Moi,
j'aime bien les chèvres. Franchement, j'aime bien le caractère des chèvres, le comportement, le tempérament des chèvres.
Alors, la chèvre, par exemple, est un animal qui va vous demander beaucoup plus de présence qu'un mouton, par exemple. Une chèvre, si vous ne faites pas comme ça lui plaît, elle va vous appeler, elle va vous chercher. Si vous ne venez pas, elle va taper dans le portillon. Enfin, elle sait se faire comprendre. Alors qu'un mouton, très bien, vous lui amenez du foin, vous lui amenez de l'eau, mais en dehors de ça, le mouton, il fait sa vie et il fait effectivement son boulot, il tond.
Alors, il faut quand même penser à d'abord au temps consacré aux animaux, parce que on ne sait pas, mais parfois ces animaux demandent beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'entretien qu'un chien ou un chat. Donc, quels sont les animaux qui demandent le moins d'entretien, le moins de temps, et d'autres où il faut vraiment beaucoup s'investir?
Alors, par exemple, si on parle au niveau des volailles, la poule demandera moins d'entretien que des canards ou des oies qui ont qui font des déjections beaucoup plus importantes, beaucoup plus importantes qu'on ne le croit.
Il faut y penser. C'est pour les rosiers, c'est ça?
On peut s'en servir comme compost, vous allez avoir des périodes des séances de nettoyage qui vont être beaucoup plus importantes qu'avec des poules.
C'est sûr.
Les canards et les oies ont aussi des pattes palmées. Vous allez avoir des phénomènes de piétinement du sol qui font que l'hiver, lorsqu'il pleut, vous allez vite vous retrouver dans une énorme mare de boue.
Ah, faut savoir. Et concernant les mammifères?
Alors concernant les mammifères, le mouton, alors surtout le petit mouton, comme le mouton d'Ouessant, ça c'est vraiment le mouton qui pour moi est le plus adapté aux particuliers. C'est un mouton qui fait 40 cm de haut, qui est d'une rusticité à toute épreuve, et qui ne demande mais quasiment pas d'entretien. Vous lui mettez de l'eau, il a l'herbe dans son terrain, et vous lui mettez une botte de foin que vous allez renouveler. tous les deux mois, voilà, et un abri très très simple.
On peut pas partir en vacances et les laisser quand même.
Alors des moutons, c'est possible. Des moutons, vous ne le feriez peut-être pas avec des chèvres, mais avec des moutons, je pense qu'il est tout à fait possible de s'éloigner de ces moutons pendant une semaine sans avoir à se préoccuper de quoi que ce soit.
Bon, avec quelqu'un qui vient quand même les surveiller de temps en temps.
Au-delà, bien sûr. Au-delà, il faut, quoi qu'il arrive, il peut toujours arriver un accident. Hein. Imaginez simplement que vos poules renversent leur abreuvoir le premier jour, et voilà.
Eh ben oui, elles ont plus d'eau après. Elles vont pas aller ouvrir leur robinet, hein.
Oui.
Donc c'est sûr, par sécurité, l'idéal est toujours d'avoir quelqu'un qui puisse passer, on va dire, tous les deux jours, ne serait-ce que quelques minutes, pour vérifier que mangeoire et abreuvoir soient correctement agencés.
Et puis,
pour certains, pour aussi, pour une présence, un poney, par exemple, comme une chèvre, peut avoir besoin de la présence humaine. Dans ce cas, en plus du temps d'entretien de votre animal, vous avez aussi du temps de présence à passer avec lui pour qu'il reste équilibré dans sa tête.
Le budget doit être pris en compte. Quel est, si on a un petit budget, quel est l'animal, la poule peut-être ?
Alors, la poule est dans les plus petits budgets. Vous avez le pigeon aussi, qui malgré tout est un animal, là aussi, très autonome, qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Et ça peut être très sympa d'avoir, disons, quelques couples de pigeons dans son jardin, en prenant des pigeons de formes et de variétés, de couleurs différentes.
Mais alors, quand vous parlez de pigeons, c'est les mêmes pigeons qu'on voit à Paris ou c'est autre chose ?
Alors, il y a chez les pigeons, vous avez le biset et le ramier. Et si je ne me trompe pas, c'est le biset qui a été domestiqué. Et alors, le pigeon ramier, on le remarque, donc je crois que sur Paris, vous devez avoir des bisets. Et le ramier, peut-être les deux, oui.
D'accord.
Ce n'est qu'une des deux espèces de pigeons qui a donné toutes nos espèces domestiques.
Alors, où acheter des animaux de ferme ? Est-ce qu'il faut aller chez un éleveur à la campagne ? Je sais qu'il y a beaucoup de sites qui se sont ouverts, qui proposent des sites internet qui proposent des poules, des canards et même des chèvres ou des moutons à la vente. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui. Bien écoutez, je dirais les animaux vont subissent forcément un stress qui est plus important que si vous alliez chercher votre animal chez un éleveur qui est à quoi une demi-heure, trois quarts d'heure de chez vous, hein, puisque là ce sont des sites qui livrent sur toute la France, donc il y a des animaux qui vont voyager des fois 24 à 48 heures. Donc tout ça va créer un stress. Ensuite, vous ne connaissez pas forcément l'origine de vos animaux. Vous ne savez même pas s'ils viennent de France. Hein. Ils peuvent venir de Belgique, d'Allemagne.
Et bientôt, on aura du trafic d'animaux de ferme, hein, comme on a des trafics de chiens ou de chats.
Alors, c'est fort possible. D'ailleurs, je soupçonne déjà ce genre de trafic sur des animaux de race, sur des races qui valent assez cher. Hein. On voit bien sur la poule, on a des prix quand même qui montent très fortement pour certaines races bien particulières.
Merci beaucoup Hervé Husson pour toutes ces précisions et rappelons que votre ouvrage Petits élevages au jardin est disponible aux éditions Ulmer, en effet. Voilà. Merci Hervé Husson.
Merci pour tout.
Écoutez, alors si avec ça, vous n'êtes pas briefé pour créer une petite ferme domestique.
Mais vraiment, il faut se renseigner avant et lire des livres justement qui vous indiquent un petit peu comment faire pour accueillir ces animaux, les entretenir, les soigner, être présent. Bien sûr, il faut être présent.
Ne pas faire ça à la légère, évidemment.
Pensez aux vacances, pensez au budget et pensez aussi à l'espace.
Et dans un instant, c'est Dave, le chanteur, qui nous rejoint. Il vient d'écrire un livre, Ma chienne de vie. On en parle dans une minute, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel.
Le retour du week-end des experts et les animaux. On a encore un petit quart d'heure à passer ensemble. Et puis, on arrivera à 8h. Et à 8h après la météo, les infos, on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau qui me rejoindra. Et avec Jean-Luc, on évoquera ensemble le salon de Genève qui se déroule actuellement. Donc, un grand salon dédié à l'automobile. Mais auparavant, Laetitia, un invité exceptionnel dans notre rendez-vous animaux
On est très heureux d'avoir avec nous ce dimanche matin le chanteur Dave. Bonjour Dave.
Bonjour.
Bonjour Dave. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Dave, bien sûr, on connaît le chanteur, mais c'est aussi un grand passionné des animaux et co-auteur avec Patrick Loiseau de Ma vie de chienne aux éditions...
Ma chaîne de vie.
Oui,
parce
j'ai
que ma vie de chienne, c'est autre chose.
Ma chaîne de vie. En le disant, je disais, mais c'est pas ma vie de chienne. Enfin, c'est, pas dit, bon.
C'est pas mal aussi, hein, Dave.
Alors, c'est un livre qui raconte l'histoire belle et émouvante de votre chienne Chance, qui, il est vrai, a mal commencé dans la vie. Elle est née sur l'île de la Réunion et a eu la malchance, si je puis dire, de rencontrer des pêcheurs qui l'ont prise comme appât pour les requins.
C'est
racontez-nous un peu cette histoire.
Ouais, c'est monstrueux. Malheureusement, ça se pratique toujours et c'est évidemment, et je voudrais être très clair à ce sujet, pas tous les pêcheurs, c'est des braconniers de la mer, en fait, c'est des méchants, parce que mettre un hameçon dans la truffe d'un chien, d'un chat, un fil de fer dans la tête ou dans la patte pour le tirer, pour essayer de pêcher des requins qui ne mangent même pas d'ailleurs, avec lesquels ils font une poudre aphrodisiaque qui évidemment ne marche pas.
Bien
tout
sûr.
Ça est absolument monstrueux. Alors, il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a sur les îles souvent beaucoup de chiens errants, de chats errants, de chiens et de chats qui appartiennent à personne. Et l'année dernière, on m'a donné le chiffre hier, le garçon qui travaille avec Dany Saval, qui est dans le livre, s'appelle la fée Dany d'ailleurs.
Oui, c'est la femme
de Michel Drucker qui nous a donné cette chaîne. Et on m'a dit que l'année dernière, ils ont encore assassiné, mais c'est pas le mot, euthanisé 17 000, vous rendez compte, 17 000. Il faut absolument qu'ils fassent quelque chose, une stérilisation ou quelque chose. Bon, mais le livre, heureusement, ne parle pas que de ça, mais c'est vrai que ça commence très mal, mais c'est vraiment un livre d'aventure, d'ailleurs, parce que c'est un peu... tout à se confondu, je crois.
Dave, comment avez-vous rencontré Chance?
Grâce à la fée Dany, justement.
Oui, c'est-à-dire que Patrick et moi, nous partageons notre vie depuis 45 ans, donc c'est notre cinquième chien. À chaque fois, on essaye de faire mieux. Et là, on venait de perdre Lucie, qui elle aussi a une histoire. On pourrait vraiment écrire des livres sur nos chiens. Lucie est morte de sa belle mort, c'est-à-dire que de vieillesse. Et on est évidemment en deuil. Et quelques semaines après, Dany Saval, qui savait que notre chienne venait de disparaître, enfin de mourir, soyons précis, nous a envoyé un article avec une photo de Chance, et en me disant, je comprendrai très bien que vous n'êtes pas prêt, mais venez au moins le voir, etc. Donc on s'est dit, c'est le destin qui nous... Lucie venait des Antilles, et Chance venant de l'île de la Réunion, on dit, poursuivi par les îles des Dom-Tom.
C'est les chiens des Dom-Tom, ouais, c'est ça.
On est allé la voir, et Chance, c'est bien. Il y a eu tout de suite une espèce de fusion, une osmose entre elle et nous, quoi. Donc on a craqué.
C'est vrai, à ce point-là.
Et quel âge avait-elle que lorsque vous l'avez récupérée?
Alors, évidemment, quand c'était une chienne errante, c'était pas très précis. La seule chose qu'on savait, d'ailleurs pas encore à l'époque, c'est qu'on savait qu'elle avait mis bas, mais on savait pas à partir de quel âge un chien peut mettre bas, et suivant les vétos, c'est à partir de 6 mois. Donc elle avait entre 6 mois et un an, en fait. Hein.
Ah oui, elle était toute jeune. Maintenant, elle a environ 11 ans, c'est ça?
Oui, elle a 11 ans. Et alors, la seule chose qu'on nous a dit au début, et je dis ça pour vos auditeurs, auditrices à qui on dit ça, elle avait un petit souffle au cœur, ah bon, et on s'en va sans savoir. Maintenant, on sait ce que c'est, parce que maintenant, c'est plus un souffle, c'est un mistral, et donc elle est évidemment soignée, forte et corps, enfin, tout le monde, vous connaissez ça?
Oui, bien sûr.
Oui, je me doute. Et c'est une angoisse, parce que son cœur ayant doublé de volume, pousse contre la trachée, elle tousse, enfin, mais elle est pas trop dans un inconfort. Sinon, évidemment,
c'est plus important.
Ça sera horrible.
C'est plus important.
Tant qu'elle mange avec plaisir et qu'elle renifle les traces de ses copains, de ses copines dans les rues, parce que là, pour les raisons promotionnelles, nous sommes à Paris, mais on est beaucoup plus souvent dans notre maison, dans le Vaucluse, parce que c'est plus facile quand on est sous diurétique, c'est pas pour nous, pour le moment, pas pour elle.
Et oui, parce qu'elle a des envies pressantes.
La porte et de faire sortir, faire pipi. Voilà.
Et qu'est-ce qu'elle a changé dans votre vie, Chance?
Écoutez, je crois qu'on a une espèce de sentiment de culpabilité envers l'espèce humaine. Donc on n'a jamais été aussi gentil et aussi permissif, je l'avoue, avec Chance qu'avec tous nos chiens avant, quoi. Elle a tous les droits.
C'est la star.
Elle a tous les droits.
D'accord.
Oui, ça c'est. Parce qu'on s'est dit, elle a tellement barré au début. Bon, évidemment, on ne les nourrit pas avec des requins, mais on devrait. Mais les requins, ils sont pour rien.
Les pauvres. Et mais elle en profite quand même de cette liberté?
Pas trop. Elle a un caractère formidable. Et le caractère, je pense que c'est fort. Enfin, évidemment, on passe notre vie à anthropomorphiser, mot que j'ai appris il y a peu de temps. Donc, évidemment, on se dit, elle sait qu'on l'aime. Et non, elle m'a volé une fois j'avais mangé une truite, je me souviens, dans un restaurant, et que j'avais pas pu finir parce que c'était énorme. Je l'ai emmené à la maison, je l'ai mis sur la table, je me suis tourné, et quand je me suis retourné, il n'y avait plus de truite. Elle l'a mangé.
Bah oui, elle s'est servie, quoi. Bah c'est normal, c'est un chien.
Oui, absolument, je l'ai tout de suite pardonné. Hein. Non, on n'a jamais eu besoin, elle était propre tout de suite, c'était un amour. Je crois d'ailleurs que plus Patrick que moi, son attachement, et c'est peut-être lié à son grand âge, parce qu'il a 66 ans, j'ai dit ça, j'en ai 71. Ça fait que son lien avec elle frôle névrose, mais c'est pas grave.
Alors, Sylvie Vartan connaît bien Chance, et c'est d'ailleurs elle qui est à l'origine du livre. C'est vrai?
Oui, on peut dire ça, parce qu'elle, en pleine nuit, pour nous c'était le jour, parce qu'elle habite à Los Angeles la plupart du temps, elle nous a appelés, je me suis réveillé avec l'idée qu'il faut absolument que Patrick écrive, parce que c'est plutôt quand même Patrick l'auteur, et moi je suis le porte-parole, et il faut absolument que Patrick écrive le livre, et ça serait bien s'il faisait à la première personne. Donc c'est vraiment une idée d'elle, et Patrick s'est mis tout de suite au boulot, et puis moi après je l'ai aidé, parce qu'on... Bon, on a aidé à nos souvenirs pour... Parce qu'elle parle de tout, la Chance. Elle parle, oui. elle parle de nous, mais elle parle aussi du fait qu'elle est horrifiée, par exemple, de voir
la
plein
chasse.
D'ados avec des ados avec des chiens morts autour de cou, parce que c'est la mode de nouveau d'avoir des parkas et avec des vraies fourrures. Alors ce sont des chiens assassinés. Oui. Donc elle parle de ça, elle parle de la tauromachie, mais elle parle
de la chasse aussi, hein. De la chasse, de la corrida. Mais c'est des combats. Enfin, il y a beaucoup de... Enfin, c'est vraiment un plaidoyer contre toutes ces pratiques. C'est vraiment des combats qui sont importants pour vous?
Ben, évidemment, sinon on le fait dire par elle, mais c'est vrai que j'avoue, moi, Patrick depuis toujours ou presque est végétarien. Pas vegan, mais végétarien.
Et vous?
Et non, je suis un mauvais carnivore. Et bon, je vais pas, quand je vois un petit agneau de lait dans les champs, je vais pas dire tout de suite que je me l'imagine au four, mais c'est pas ça.
D'accord, ouais.
Mais c'est horrible, je sais, d'autant plus que j'ai les livres de Gisbert.
Qu'on a lu d'ailleurs dans cette émission il y a quelques temps de cela. Ouais.
Mmh. Ah ouais, bah, c'est un vrai activiste. Et je le comprends ça. Mais c'est peut-être aussi une éducation. Vous savez, pour parler d'éducation, il y a au moins 20 ans qu'un camarade à nous à Los Angeles, où on peut plus y aller à cause de Chance parce qu'il peut plus avoir de l'avion, mais avant on y allait au moins un mois par an. Et on va, il y a un copain à nous ramasser du popo de son chien avec dans un petit sac. Et on était, ça se faisait pas encore. Maintenant, évidemment, on fait partie de ceux et celles qui le font.
Mais c'est
une question d'éducation. Et mes parents m'ont mal élevé concernant la viande. je trouve mes excuses comme je peux.
D'où vous vient cette passion des animaux?
Ah, là aussi, je crois que j'ai
l'enfance.
Oui, vous aviez des animaux.
Le Nero, parce qu'il était noir, et il avait, j'avais genre 6 ans, et je m'en occupais tout de suite. J'ai dû être chien dans une autre vie. D'ailleurs, j'ai une langue de vipère. Je suis très chien.
Vous avez toujours eu des animaux dans votre vie,
ouais.
Dave?
Ouais. Quand j'ai quitté les Pays-Bas avec un vieux rafio, la personne qui nous a vendu le bateau, c'était un forgeron d'art qui était très impressionnant, il nous a dit, je vous vends le bateau, mais il faut ma chien vient de mettre bas, il faut prendre un chien avec. Et on est parti avec un chien qu'on appelait Bard, comme dans Astérix.
Oui.
J'ai toujours eu des chiens, j'ai des histoires de chiens, mais alors, on en a pour des heures, hein. Il faut annuler l'émission sur les voitures. Et on continue.
Vous savez que on vient d'interviewer Natacha Harry, qui est présidente de la SPA, pardon. Ça oui. Vous dirait de devenir président de la SPA?
Je sais pas. Alors, pour vous dire, je pense que c'est une responsabilité énorme.
Et oui,
tout en ayant mon grand âge, je suis encore. J'ai une émission tous les semaines à la télé. Je vais pas faire de promo. Je vais pas profiter de ma chaîne pour faire de la
promo.
Non,
votre émission sur France 3, bien sûr.
Et oui.
Ouais. Et donc, ce que je fais avec les animaux, et je suis fier d'en parler parce que j'aime pas trop parler du charity business, mais je suis parrain d'une organisation qui s'appelle Mira.
Oui.
Qui est une organisation des chiens aveugles pour enfants.
Oui, dans le sud de la France, il me semble.
Ouais, et parce que ça s'est pas fait par hasard, parce que j'ai une maison donc du côté de l'île sur la Sorgue, et les personnes qui l'a créée, elle est d'un petit village à côté, qui est venue me voir. Généralement, quand les gens viennent me voir, quand je suis en vacances, ils les envoient un peu promener, mais c'est difficile d'envoyer promener un aveugle. Et donc, il m'a expliqué le cas. Et depuis, mais de nulle part, on a pu monter vraiment un centre d'accueil, un endroit pour dresser et les chiens et les enfants. Donc, c'est assez passionnant. Et honnêtement, là, c'est souvent des labradors, vous le savez, des golden retrievers, etc. Oui. Et qui ont l'air très, très, très heureux. Parce que je trouve ça important que les chiens soient aussi heureux. Bah, que
en plus,
maître,
ils sont avec des enfants ou des adolescents, ce qui est super.
Exactement. Ils vont à l'école avec. C'est bouleversant à voir. Moi, je me souviens, la première fois, j'étais allé un peu comme ça, en marche arrière, quoi, en reculant. Mais quand j'ai vu le bonheur des parents, voyant la vie de leurs enfants changer de tout au tout, je me suis dit, vraiment, le destin fait bien des choses, parfois, qu'on ait des rencontres de cette importance-là, vous voyez.
Alors, c'est l'association Mira. Alors, on vous voit à la télé, dans cette émission sur France 3. Vous savez que l'émission 30 millions d'amis se termine en juin.
Ouais,
ça vous dirait de faire une émission sur les animaux?
Écoutez, pourquoi pas, mais vous savez que la France Télévisions trouve qu'il y a trop de blancs et trop de vieux, donc je me sens un peu consolé.
Bah, cela dit, vous y êtes encore.
Oui, je suis encore. Je touche du bois. Normalement, je serai encore en septembre. Je n'ai pas signé, on ne sait jamais, mais on m'a promis de continuer parce que ça marche bien. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'émissions de ce genre. Donc, évidemment, je suis ravi de le faire parce que je ne me prends pas pour un animateur de télé. Je suis un collègue du bureau qui reçoit ses confrères. Et c'est là où je diffère. Évidemment, c'est ma seule légitimité parce qu'il y a des gens qui font ça bien, qui sont vraiment des vrais animateurs. Moi, je reçois juste mes copains chez moi et on discute. Les gens ont le droit de regarder.
Est-ce que Chance vous accompagne parfois sur le plateau? On sait que la chaîne de Michel Drucker le suit tout le temps, etc.
Ah,
c'est
oui,
le cas pour
sûr.
Vous aussi?
Non, c'est Patrick qui s'en occupe parce qu'en fait, Chance, c'est vraiment une bête habitude. C'est sur notre faute. Alors, elle, dès le début, j'ai eu des chiens, notamment les chiens sur mon premier album où il y avait Swan, Vanina, et c'est par hasard, tous ces trucs-là. Ce chien-là est venu dans tous les concerts depuis le début. Et donc, il était habitué parce que je fais beaucoup de bruit sur scène. C'est assez dur pour un chien, hein, les sons amplifiés. Chance, pas trop sensible au bruit. Mmh. Au début, lève un peu la tête avec les coups de fusil, parce que dans le Vaucluse, il y a beaucoup de chasseurs. En revanche, les orages, alors là, elle s'assoit sur nos têtes, sur le lit. on passe des mauvaises nuits.
Voilà, paru aux éditions Robert Laffont, ma chienne de vie, d'Ève et Patrick, votre compagnon depuis 45 ans. Voilà, vous avez coécrit cet ouvrage.
Oui, je vais ouvrir un bureau de conseil matrimonial. Bien
vous devriez.
J'ai l'impression.
Vous devriez. Bravo. On vous souhaite plein de bonnes choses, Dave. Et puis merci de nous avoir consacré ce petit quart d'heure.
Et une caresse pour Chance, hein, quand même.
Bah, d'accord. Ouais, écoute, on va essayer de faire un film avec Chance.
Voilà. Oh, bah oui.
Et du côté de chez Dave, donc sur France 3, chaque dimanche. Donc ça sera tout à l'heure, d'ailleurs. Merci, Dave.
Voilà,
à bientôt.
Merci beaucoup.
Merci, Dave. Bon dimanche. Au revoir. Merci.
Ah. Voilà. Sympathique, comme on le voit à la télévision, hein, Dave, en fait.
Sympathique et entier, c'est bien.
Exactement. Laetitia, on va se dire au revoir avec une petite vidéo. Et on a choisi une petite vidéo de Pi, cette
semaine.
Oui,
pour changer, parce que c'est toujours chat ou chien. Ben allez,
voilà.
Et les oiseaux.
Et alors voilà, et là, c'est l'histoire d'une petite Pi qui voit une espèce de linge pendre, comme ça. Elle le renifle, et puis elle s'accroche au linge et elle commence à faire à s'accrocher à l'envers, en fait, sur le...
Faire le poirier.
Voilà, faire le poirier. Et puis là, il y a une copine Pi qui arrive. On vous raconte pas la suite. C'est à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Tout simplement.
C'est très drôle.
Laetitia, on se retrouve la semaine prochaine. On sera là dimanche prochain, bien sûr.
Je vous souhaite un très, très bon dimanche à tous. Je vous embrasse bien fort et je vous donne, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine.
Voilà, Laetitia Barlerin, mes côtés, chaque dimanche 6-8 sur RMC. Bientôt 8h après la météo et les infos. Ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. On ira faire un tour tout à l'heure, non pas du côté de chez Swan, mais du côté du salon de Genève. À tout de suite.
Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr.